nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui représente en quelque sorte la suite du grand avertissement que l'Église nous donne concernant la très sainte Vierge Marie. Je vous avais expliqué lundi dernier, donc pour la grande fête de l'Assomption, que la très sainte Vierge Marie était forte comme une armée rangée en bataille et que son rôle était de diviser, faire une division entre les bons et les mauvais, entre les enfants de la très sainte Vierge Marie et les enfants du démon, les enfants du diable. Et aujourd'hui, l'évangile reprend exactement le même thème. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il haïra le premier et adorera le second, ou il adorera le premier et haïra le second. Ça nous rappelle donc cette obligation qui est nôtre de faire un choix, mes bien chers frères. La vie est un combat, la vie est une bataille. Ceux qui prétendent, qui espèrent pouvoir passer leur vie sans problème d'ici-bas se trompent, parce que la première chose qu'on trouve quand on suit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évidemment la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette force, en quelque sorte, de nous battre contre les trois concupiscences et donc de choisir le bon camp, c'est-à-dire le camp de notre Sainte Vierge Marie. Et nous avons un choix à faire, soit notre Seigneur, soit ce que notre Seigneur Jésus-Christ appelle le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout simplement le règne des trois concupiscences. L'orgueil, le désir d'être numéro un en tout, d'être au-dessus de tout le monde, d'écraser tous ceux qui sont en dessous de vous, la chair pour concernant toutes les vices de l'impureté, et les yeux, à savoir la concupiscence qui nous fait désirer tout ce que nous avons autour de nous. Ça me plaît, je prends, ça me plaît pas, je rejette. Eh bien, il est évident que nous avons donc un choix, soit avec l'orgueil, soit avec l'orgueil du monde, soit avec l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humilité qui entraîne évidemment la vertu de docilité, la vertu d'obéissance et surtout la vertu de fidélité pour être fidèle à ce que le bon Dieu attend de nous, à savoir de nous préparer à monter au ciel. Non mais bien, chers frères, il nous faut bien comprendre avec cette phrase par laquelle commence l'évangile du jour, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, que nous sommes obligés de faire un choix et qu'il n'y a absolument aucune possibilité pour nous de rester au milieu entre les deux choix. Beaucoup de gens sont comme ça. Il dit, oui, monsieur l'abbé, c'est vrai, le dimanche, comprenez, de 10h à midi, d'accord, je suis notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut, parce que c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc le dimanche, de 10h à midi, je suis un bon petit catholique, une bonne petite catholique, et je fais ce que j'ai à faire en tant que catholique dans l'Église catholique en suivant bien la loi du bon Dieu. Mais pendant la semaine, je reste avec le monde. Beaucoup de gens sont comme ça. Donc la main droite avec notre Seigneur Jésus-Christ, la main gauche avec le démon, puis on essaye de garder une espèce d'équilibre instable. Cet équilibre est tellement instable qu'on finit toujours par tomber d'un côté ou de l'autre. Ou on lâche le monde et on se jette dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, du curé Immaculée de Marie, ou on laisse malheureusement le bon Dieu et sa Sainte Mère pour se jeter dans les bras du démon. Elle est obligée de faire un choix. Alors souvent les gens nous disent, monsieur l'abbé, vous comprenez, vous en demandez un peu trop, parce que moi je suis quand même 80% catholique, c'est quand même pas mal. Il faut bien comprendre une chose, mes bien chers frères, on ne peut pas être à 80% catholique, c'est impossible. On ne peut pas être à 50% catholique, à 80% catholique ou à 95% catholique. On est catholique ou on ne l'est pas. Celui qui se prétend catholique à 80%, il n'est pas catholique, tout simplement. Quelle est la différence entre celui qui est catholique à 25% et celui qui est catholique à 85%? Il n'y a aucune différence. Tous les deux sont des païens. Tous les deux sont des hérétiques parce qu'ils nient notre Seigneur. Prenons un exemple tout simple. Il y a 10 commandements de Dieu. Imaginez quelqu'un qui dit, moi, monsieur l'abbé, j'accepte 8 commandements sur 10. C'est quand même pas mal. Et un autre païen qui nous dit, moi, monsieur l'abbé, j'accepte que 2 commandements sur 10. Est-ce qu'on pourrait dire que celui qui accepte 8 commandements sur 10 est meilleur catholique que celui qui n'en accepte que 2? Non. Tous les deux sont des hérétiques. Tous les deux sont en dehors de l'Église parce qu'ils refusent de se soumettre à la loi du bon Dieu. Donc il faut absolument ôter de notre esprit cette idée qu'on peut être catholique en partie seulement. Beaucoup de gens sont comme ça. Et c'est ça qui explique la catastrophe de Vatican II. Parce que la plupart des catholiques, malheureusement, des années 60, juste avant Vatican II, rappelez-vous Vatican II 62-65, étaient des catholiques comme ça. Catholiques le dimanche et païens pendant la semaine. Catholiques le dimanche mais modernistes pendant la semaine. Ou catholiques le dimanche et rien du tout pendant la semaine. Et ils estimaient très contents parce qu'ils disaient quand même, moi je suis catholique à 90%, c'est quand même pas si mal pour les temps qui courent. Ils ne comprenaient pas que quelqu'un qui est catholique à 90% dit au bon Dieu, écoutez mon Dieu, je vous suis à 90%, mais pendant 10% de ma foi, je suis le démon. Prenons un autre exemple un peu trivial peut-être, mais qui explique bien ces choses. C'est par les exemples qu'on comprend. Imaginez un homme, un mari qui dit à son femme, à son épouse, je vous aime de tout mon cœur, sauf une journée par mois. Une journée par mois, je vais avec quelqu'un d'autre, mais rassurez-vous, 30 jours par mois, sur les 31, je suis avec vous de tout mon cœur. Une journée par mois, je prends mes libertés, je vais avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on pourrait dire, cet homme aime quand même pas mal son épouse, puisqu'il il la suit pendant 30 jours sur 31, c'est quand même pas si mal que ça. Non. On sera obligé de conclure, cette personne n'aime pas son épouse, est infidèle à son épouse, parce qu'en fait, une fois par mois, il la laisse pour aller avec une autre. Prenons un autre exemple. Je crois que c'est très important d'expliquer ces choses-là, parce que c'est précisément avec des faux arguments comme ça que le démon a trompé tellement de personnes pendant les catastrophes de Vatican II et après, ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours tout autour de nous. Prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous donnez à votre enfant, votre enfant qui a 5 ans, une petite addition à faire. 6 plus 4, égale combien? Vous avez 3 enfants autour de vous, vous faites la classe des petits-enfants, 3 enfants autour de vous, le premier il dit 6 plus 4, ça fait 2 je crois. Le deuxième il dit 6 plus 4, ça fait 6, et le troisième il dit 6 plus 4, ça fait 9. Est-ce que vous pouvez dire, le troisième, il est plus proche de la vérité parce qu'il a dit 9, c'est presque 10 ça, donc il a une meilleure note que celui qui a dit 6 ou 2. Non, parce que si celui qui dit 6 plus 4 égale 2, c'est faux, il a 0. Celui qui dit 6 plus 4, ça fait 6, il a 0 aussi parce que c'est faux. Et celui qui dit 6 plus 4 égale 9, c'est aussi faux, donc il a aussi 0. C'est pareil avec la foi. La foi catholique nous demande, exige de nous l'intégralité de la foi. On dit que nous sommes des catholiques intégristes, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais les anciens disaient des catholiques intégraux. Ça veut dire quoi un catholique intégral? Et qu'un catholique qui étant catholique doit accepter la totalité de la foi catholique. Imaginez quelqu'un, encore un exemple tout simple, qui ouvre le catéchisme de Saint-Pilice, qui dit « bon ça va, j'accepte toutes les pages du catéchisme, sauf cette page-là qui ne me plaisent pas ». Est-ce que cette personne pourrait dire « je suis quand même catholique parce que j'accepte toutes les autres pages » Non. Par le simple fait que vous rejetez ces 3 pages, vous n'êtes pas catholique. Par le simple fait que dans la vie de tous les jours, nous refusons de mettre notre Seigneur Jésus-Christ, de considérer, de vouloir mettre notre Seigneur Jésus-Christ à toute première place pour tout, et qu'on donne un peu de pouvoir aux démons, eh bien, par la force des choses, évidemment, nous ne sommes pas catholiques. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que l'une ne peut servir de maître à la foi. Donc ceux qui essayent, si vous voulez, de se tenir entre deux excès, entre deux côtés, notre Seigneur Jésus-Christ d'un côté, le démon de l'autre, qui essayent d'avoir l'étendard de notre Seigneur avec pauvreté, chasteté, obéissance, dans une main et de l'autre main l'étendard du démon avec liberté, égalité, fraternité, eh bien c'est tout simplement impossible. Comment appelle-t-on, mes bien chers frères, ces personnes qui veulent plaire à la fois aux démons et au monde? Ils ont un nom. Ils ont été condamnés par l'Église sous le nom de catholiques libéraux. Un catholique libéral, c'est quoi? On oppose les catholiques libéraux aux catholiques intégraux. Le catholique intégral, c'est celui qui accepte l'ensemble de la foi catholique. Et le catholique libéral, c'est celui qui veut donner les mêmes droits aux vrais et aux faux. Elle veut dire, mais le catholique intégral, il pêche comme tout le monde, donc il n'est pas meilleur que nous. Le bon Dieu sait très bien que nous sommes malheureusement des fruits du péché originel et que même un catholique intégral qui accepte l'intégralité de la foi catholique, eh bien, malheureusement, souvent a besoin de se confesser pour justement effacer les péchés actuels commis après le péché originel, après le baptême. Mais même quelqu'un qui pêche, je veux dire, et qui a la foi catholique, accepte l'intégralité de la foi catholique. Au contraire, quelqu'un qui refuse catégoriquement la foi catholique, eh bien, ou une partie de la foi catholique, est à mettre exactement dans le même panier que quelqu'un qui nie l'intégralité, qui nie toute la foi catholique. Vous voyez comme c'est important, mes bien chers frères. Dieu est un Dieu jaloux, attention. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence, dit-il. C'est pas simplement tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de moi, mais c'est aussi tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Et si j'essaie de partager mon amour entre d'une part notre Seigneur Jésus-Christ et d'autre part le bon Dieu verra que nous aimons le monde et que nous essayons de diviniser le monde pour donner en fin de compte au monde un pouvoir divin, à ce moment-là, il se retire complètement écœuré de notre position. Et à ce moment-là, il s'en va. Oui, mais bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre, attention à ne pas tout mélanger. Un catholique intégral, c'est un catholique qui aime notre Seigneur Jésus-Christ et qui est prêt, avec la grâce du bon Dieu, bien sûr, à le suivre dans son intégralité, c'est-à-dire l'ensemble de la foi catholique, sans faire une espèce de tri. C'est ça justement le libéralisme, de trier ce que j'aime, je garde, ce que j'aime pas, je rejette. N'oublions pas, mes chers frères, que le libéralisme est un péché. Lisez, si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous conseille beaucoup le livre fondamental de Don Sarda et Salvini, le livre « Le libéralisme est un péché », qui est un grand livre de base que vous pouvez avoir aux éditions Saint-Rémy. Lisez ce livre, si vous ne l'avez pas lu, qui vous aidera à bien comprendre ces distinctions qui sont absolument fondamentales. L'évangile d'aujourd'hui est tellement riche, mes bien chers frères, qu'on ne sait plus très bien quel point prendre pour un sermon. On pourrait prendre chaque phrase, chaque mot de l'évangile, tellement il est riche. La page de saint Matthieu est absolument splendide. Qu'est-ce que dit également notre Seigneur? Il a dit, regardez la liste des champs. Il ne sème pas, il ne fait pas des réserves, et pourtant le bon Dieu s'en occupe et lui donne une parure que même le roi Salomon n'avait pas. Là, ici, notre Seigneur nous parle d'une autre chose qui est extrêmement importante, à savoir la confiance en la providence. Le bon Dieu ne se contente pas de nous créer et nous laisser tout seuls dans le monde face à une bande de requins, une bande de loups enragés pour qu'on se fasse dévorer par eux. Le bon Dieu nous place dans le monde, mais donne à chacun d'entre nous, mes bien chers frères, les grâces dont nous avons besoin pour arriver à tenir le coup, conserver la foi et lutter contre les ennemis, le monde, la chair et nous-mêmes. Voilà pourquoi il faut, mes bien chers frères, ceci est fondamental, il faut absolument justement demander au bon Dieu cette grâce de ne jamais, jamais perdre confiance en la Sainte Providence. La Providence s'occupe de nous, si notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe des fleurs qui, dit l'Évangile, un jour vont être arrachées et jetées au feu, eh bien le bon Dieu va bien sûr s'occuper de ses enfants raisonnables, à savoir de ces créatures raisonnables que sont les hommes. Bon, il s'occupera de nous au moins autant qu'il s'occupe des lys des champs. Et puisque l'Église des champs n'a pas d'âme, le bon Dieu va s'occuper évidemment bien plus d'un être raisonnable, puisque l'homme a une âme qui est justement en quelque sorte à qui il a donné le pouvoir de découvrir le bien et de le posséder par la volonté. Et bien le bon Dieu va s'occuper de cette âme bien plus qu'il ne s'occupe des objets matériels. Voilà, mes chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre. La conclusion me semble aussi très importante dans l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas attention, pas comprendre de travers cette phrase. Le bonheur ne dit pas cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et vous ne vous occupez pas du reste. Le reste n'a aucune importance, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherchez d'abord les choses importantes et ensuite le reste vous sera donné. Il ne nous interdit pas de nous occuper des choses matérielles. Il ne nous interdit pas de nous occuper des choses secondaires. Mais il exige que nous occupions d'abord des choses importantes. C'est-à-dire que nous ayons en notre âme une hiérarchie des valeurs. Cette hiérarchie des valeurs, elle est éclairée par un don du Saint-Esprit très spécial qu'on appelle le don de sagesse. C'est le don de sagesse, justement, qui donne cette hiérarchie des valeurs. Celui qui a la sagesse, il a la vertu de charité. Et celui qui a la vertu de charité, il a ces merveilleux dons du Saint-Esprit tous ensemble et tous les fruits du Saint-Esprit dont parle l'épître d'aujourd'hui, l'épître de Saint-Paul aux Galates, chapitre 5. relisez cet épître splendide qui dit bien que ceux qui suivent le monde et tous les péchés du monde ne posséderont pas le royaume des cieux, mais qu'au contraire, ceux qui vivent dans la vertu de charité auront ces fruits du Saint-Esprit. Quels sont les premiers fruits du Saint-Esprit? La charité, l'amour du bon Dieu, bien sûr, et aussi la paix et la joie. Ces 12 fruits du Saint-Esprit magnifiques, relisez l'épître de Saint Paul d'aujourd'hui. Donc cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On met d'abord notre énergie dans les choses importantes. Le bon Dieu nous a donné une âme, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Donc le bon Dieu nous a donné une âme pour que nous cherchions d'abord à posséder les choses importantes, à savoir assurer notre salut. Nous avons bien sûr aussi le droit et le devoir d'ailleurs de nous occuper aussi des choses, des personnes dont nous avons la charge, et donc mais aussi de nous occuper de vêtir et d'alimenter et de protéger l'âme et le corps de nos enfants, bien entendu. Mais d'abord et avant toute chose, le bon Dieu. Et cette hiérarchie des valeurs est absolument fondamentale, et aujourd'hui elle a été complètement détruite. On détruit complètement la hiérarchie des valeurs, et le monde moderne nous fait croire que les choses matérielles sont bien plus importantes que les choses spirituelles. La hiérarchie des valeurs nous oblige à mettre en premier lieu ce qui est le plus important, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, sa vertu de charité, sa loi. Donc cherchons d'abord le royaume des cieux et tout le reste sera donné par surcroît. À ce moment-là, le bon Dieu prendra soin de nous comme il a pris soin des herbes et des fleurs, des champs. De la même façon, il va s'occuper aussi de nous pour donner les choses matérielles dont nous avons besoin parce qu'il sait que nous avons besoin aussi de ces choses-là. Donc il serait faux pour quelqu'un de s'occuper que des choses spirituelles et de dire les choses matérielles, je m'en moque, je ne fais pas ce que j'ai à faire, je ne remplis pas mon devoir d'État en matière matérielle, Dieu pourvoira. Non, attention. Parfois des gens comme ça, c'est assez fréquent, surtout chez les jeunes dans la tradition. Moi je m'occupe de mon âme et puis je ne m'occupe absolument pas de chercher un travail, d'avoir un moyen de vivre, Dieu pourvoira. Attention, mes chers frères. Dieu nous demande aussi de nous occuper des choses matérielles, parce que nous en avons besoin, mais après nous être occupés des choses spirituelles qui sont plus importantes. D'abord mon âme, d'abord le salut de mon âme, puis les choses matérielles. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme. Ce n'est pas comme cela que Saint Ignace de Loyola commence ses exercices. Donc il nous dit bien, c'est exactement l'évangile d'aujourd'hui, je dois être convaincu que je suis sur la terre pour louer, honorer et servir Dieu, c'est-à-dire obéir à Dieu pour pouvoir sauver mon âme. Le but de ma vie, c'est de sauver mon âme, c'est les 13 jours avec lui éternellement au paradis. Et ensuite, il explique, dans la deuxième partie du principe et fondement, il explique, j'ai le droit d'utiliser les créatures, bien sûr. Autant que ces créatures m'aident à atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé et que je me dois de couper de ces créatures qui m'entourent si ces créatures sont pour moi un obstacle pour atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé, à savoir le bon Dieu. Et bon Dieu explique clairement les choses, c'est comme ça qu'il faut expliquer l'évangile d'aujourd'hui, il nous le dit bien, si ta main droite, si ton pied droit, si ton œil droit sont pour toi des occasions de péché, coupe-les, arrache-les, jette-les au loin, et vaut mieux pour toi rentrer au paradis avec un seul œil, un seul pied ou une seule main, plutôt que de tomber en enfer avec deux yeux, deux pieds ou deux mains. Cherchez donc d'abord le royaume des cieux, puis tout le reste vous sera donné par surcroît. Et le démon, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Le démon va nous pousser en quelque sorte à chercher d'abord les choses matérielles et puis quand on a un petit peu de temps, les choses spirituelles. Non, l'âme est plus importante que le corps. L'âme est la forme du corps, bien sûr. Attention, il ne faut pas oublier le corps non plus, il faut bien s'en occuper. Le corps, c'est le frère Anne. Le frère Anne, pour qu'il fasse son travail, il faut lui donner à boire, lui donner à manger. Sinon, le frère Anne, il s'écroule, on ne peut plus rien faire. Il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse de se considérer que les choses spirituelles et mépriser les choses matérielles. Attention, non pas question. Il faut équilibrer les deux choses. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame, c'était sa fête demain encore, l'octave de l'Assomption, donc la fête du cœur immaculé de Marie, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les mettre dans notre âme. Pour que nous sachions pas simplement les comprendre, mais mettre ça dans le cœur de nos enfants. Le premier rôle d'un père de famille, le premier rôle d'une mère de famille, c'est de mettre dans le cœur de ses enfants que la chose la plus importante pour eux, c'est d'abord le salut de leur âme. Si leur âme est sauvée, tout est sauvé. Si leur âme est perdue, tout est perdu, même si on tout le reste. Le bon Dieu, le jour de notre mort, nous posera une seule question: êtes-vous en état de grâce? Et pour ceux qui ont charge d'âme, c'est-à-dire les prêtres et les parents, il posera une autre question: est-ce que ceux dont vous avez la charge, vos paroissiens, vos enfants, sont-ils en état de grâce? Voilà la question qu'il va vous poser. Alors, mes chers frères, il nous faut demander avec beaucoup d'humilité, surtout après notre communion d'aujourd'hui, demander avec beaucoup d'humilité au bon Dieu qui nous donne justement toutes ces grâces. Et ces grâces, il va nous donner par la très sainte Vierge Marie. Avec humilité, avec grand amour pour elle, mettons-nous donc aux pieds de la très sainte Vierge Marie et supplions-la d'obtenir pour nous, qu'elle obtienne pour nous justement toutes ces grâces dont nous avons besoin, afin que nous soyons capables de faire les bons choix avec le don de sagesse, avec la vertu de prudence, de faire les bons choix pour d'abord assurer notre salut, et à ce moment-là, le bon Dieu, comme il l'a promis, nous donnera tout le reste. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.